Chers auditeurs, bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast Parlons Europe. Je tiens d'abord à vous saluer et à partager avec vous le plaisir que nous éprouvons à vous retrouver pour ce nouvel épisode. Au programme aujourd'hui, il est question d'indépendance éditoriale européenne, indépendance souvent associée à l'idée de neutralité et d'objectivité, des termes qu'on entend fréquemment et souvent dans le but de critiquer les médias.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
La construction européenne reste l'événement le plus important des 50 dernières années. C'est l'Europe qui a vraiment changé le destin, l'espoir, la confiance que nous pouvons avoir dans l'avenir.
Mais qu'en est-il réellement ? Entre bouleversements, avec notamment l'avènement de l'ère numérique ou de l'intelligence artificielle, et tentatives de préservation, de protection, on pense d'ailleurs à la difficile survie des journaux papier, le monde médiatique nous semble aujourd'hui être en pleine mutation, mais aussi en pleine remise en question. Alors pour commencer, Mathéo, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on entend par indépendance ou encore neutralité des médias ? Ces termes peuvent effectivement nous sembler flous, et je pense parler au nom de tous les consommateurs de médias en disant qu'on a souvent du mal à voir ce qui se cache derrière ces termes.
Tout d'abord, je tiens à souligner que les termes d'indépendance et de neutralité ne sont pas équivalents et que par conséquent, ils ne désignent pas la même idée. J'aimerais donc revenir précisément sur ces deux termes, car je pense que c'est essentiel pour avoir les idées plus claires. Alors, à quoi pense-t-on quand on emploie le terme de neutralité ? Derrière ce terme, on retrouve la notion d'objectivité, que l'on emploie fréquemment, en science notamment, et pour les sciences dures comme la physique. On a alors tous cette définition de l'objectivité, héritée du champ scientifique, comme la représentation fidèle de ce que l'on peut observer. Si on garde cette définition-là, on reste en surface. Mais ce qui m'intéresse davantage ici, c'est l'usage philosophique du terme. Et d'après le CNRTL, c'est-à-dire le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, je cite, « Il s'agit de ce qui existe en soi, indépendamment du sujet pensant. On voit mieux alors quel est le problème lorsque l'on parle de neutralité. Elle suppose l'effacement de l'individu, là où les médias sont le lieu de formation et d'expression d'un discours, celui du journaliste, du sujet pensant justement. En ce sens, ce qu'affirme de manière assez provocatrice le rapport annuel de l'ODI, c'est-à-dire l'Observatoire de la déontologie de l'information, en 2014, c'est que, je cite, « l'objectivité journalistique n'existe pas. La pratique du journalisme repose sur une série de choix. Les journalistes préfèrent donc parler d'honnêteté dans leur travail. » Alors qu'est-ce qu'on retire de ce fragment de rapport ? En fait, ça nous permet de reformuler précisément nos attentes face aux médias. Nous n'attendons pas que les journalistes s'effacent, mais qu'ils respectent ce que l'on peut appeler le pacte de lecture, implicite ou explicite, qui est passé avec les lecteurs, d'où la notion d'honnêteté. Qu'en est-il maintenant de l'indépendance ? Bon, déjà, on change d'échelle. Là où la neutralité, qu'il faut remplacer, on l'a compris, par honnêteté, s'attache aux journalistes en tant qu'individus, l'indépendance est structurelle, puisqu'elle implique les relations des médias à des acteurs extérieurs qui peuvent plus ou moins influencer ces médias. Pour que cela soit assez simple et donner une définition assez claire, on peut dire que l'indépendance engage l'autonomie de la structure que constitue un média, là où l'honnêteté, à l'inverse, désigne le respect, l'application d'un code par le journaliste. On comprend donc que les deux termes ne sont pas à prendre sous le même angle d'analyse parce qu'ils ne désignent tout simplement pas la même chose.
Ta réponse illustre bien la confusion qui peut régner dans notre usage quotidien du vocabulaire médiatique. Mais alors, pourquoi cette confusion est-elle si prégnante dans nos sociétés actuelles ? Pour le comprendre, faisons un petit tour de l'autre côté de ce qu'on peut appeler la machine médiatique. Jade, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer en quoi la notion d'indépendance médiatique est en tension ? Est-ce qu'aujourd'hui, certains facteurs influencent l'indépendance des médias ? Et si c'est le cas, de quelle nature sont ces facteurs ?
Alors oui, la notion d'indépendance médiatique est en tension, presque partout en Europe. Et cela pour une raison simple. Aucun média n'existe sans financement, et chaque modèle de financement crée ses propres contraintes. L'indépendance éditoriale est donc toujours un équilibre fragile entre ce que les journalistes veulent dire et les intérêts politiques, économiques ou commerciaux des acteurs qui financent l'information. D'abord, il y a les médias publics. Sur le papier, ce sont ceux qui devraient garantir le mieux l'indépendance. Ils ont un financement stable, une mission de service public et des obligations en matière de pluralisme ou d'éducation aux médias. Mais en pratique, leur indépendance varie beaucoup selon les pays. Pourquoi ? Parce que leur direction est souvent nommée par les gouvernements, ce qui crée un risque de pression politique. L'Union européenne a d'ailleurs adopté en 2024 le Media Freedom Act pour protéger davantage ses rédactions, signe que la menace est prise au sérieux, notamment dans certains pays d'Europe centrale où les médias publics ont été instrumentalisés. Ensuite, il y a les médias financés par la publicité. Eux sont beaucoup moins dépendants du pouvoir politique, mais ils deviennent dépendants des annonceurs et de l'audience. Concrètement, ça veut dire quoi ? que les choix éditoriaux peuvent parfois éviter de froisser de grands groupes industriels ou glisser vers des contenus plus sensationnels pour générer du trafic et rassurer les marques qui financent. Leur indépendance est donc principalement mise en tension par des logiques économiques. A l'inverse, les médias financés par abonnement, comme Mediapart ou certains titres nord-européens, cherchent à s'affranchir au maximum des annonceurs. Leur idée, si ce sont les lecteurs qui payent, l'indépendance s'en trouve renforcée. Mais ce modèle a un autre biais. Il correspond souvent à un public urbain, éduqué, politisé, ce qui peut orienter la ligne éditoriale et créer une forme de bulle socio-culturelle. On est indépendant des pouvoirs économiques, mais dépendant de son audience et de ce qu'elle attend. Enfin, un autre facteur majeur, c'est la concentration de la propriété des médias. Dans plusieurs pays européens, de grands groupes privés ou des milliardaires possèdent une grande part du paysage médiatique. L'influence n'est pas toujours directe. On ne dicte pas forcément un article, mais elle peut être structurelle. Les orientations stratégiques, les sujets sensibles parce qu'ils touchent à des secteurs où l'actionnaire est présent ou simplement le climat général dans une rédaction. C'est aujourd'hui l'une des principales inquiétudes en Europe. Alors si on regarde tout cela dans son ensemble, on comprend que l'indépendance médiatique est traversée par trois grands types de tensions. Des tensions politiques, surtout dans les médias publics ou dans les pays où l'État joue un rôle important. Des tensions économiques liées aux annonceurs, aux actionnaires, au cycle de marché ou aux impératifs de l'audience. Des tensions sociologiques, surtout dans les médias par abonnement, qui peuvent refléter les attentes d'un public très spécifique. Autrement dit, il n'existe pas de modèle parfait. Chaque système a ses forces, mais aussi des points d'influence potentiels. Et c'est précisément pour ça que la question de l'indépendance n'est jamais réglée une fois pour toutes. C'est un combat permanent qui se joue dans le financement, dans la gouvernance et dans la culture professionnelle des rédactions.
Merci Jade, j'aurais pas pu mieux illustrer l'idée de machine médiatique pour montrer toute la complexité de ce monde. Ce qui ressort, c'est l'idée que les médias, privés comme publics, constituent un marché, comme en témoignent les diverses sources de financement possibles. Un paradoxe toutefois à l'écoute de ta réponse, j'ai l'impression d'un côté on a tout un ensemble de financements témoignant d'un certain pluralisme, et pourtant l'indépendance des médias semble n'avoir jamais été autant menacée. Alors Honorine, est-ce que c'est seulement une impression ou est-ce que c'est quelque chose de fondé ? C'est vrai qu'on a toujours l'impression d'être sur le fil du rasoir quand il s'agit de pluralisme dans la sphère médiatique. Est-ce que c'est une réalité ?
Alors tout d'abord, je dirais que ce n'est pas seulement une impression et même que les chiffres le confirment. Aujourd'hui, on a un paysage médiatique européen qui semble très divers. On a des médias publics, des coopératives comme Mediapart ou The Correspondent, des micromédias locaux ou participatifs, et même des plateformes citoyennes qui émergent en Scandinavie ou en Espagne. Donc en apparence, oui, on peut dire que le pluralisme existe. Mais derrière cette diversité, il y a des forces beaucoup plus lourdes qui pèsent très fort sur l'indépendance. D'abord, il y a la concentration économique. Dans certains pays, comme on l'a vu, quelques groupes contrôlent une part gigantesque du marché. Vivendi, Bouygues ou Altice en France, Bertelsmann en Allemagne, Mediaset en Italie. Le Media Pluralism Monitor 2024 le dit clairement. La concentration est l'un des plus grands risques pour l'indépendance. Ensuite, il y a un autre facteur qui pèse énormément sur le pluralisme et qu'on oublie souvent, celui des plateformes numériques, qui sont devenus en quelques années les véritables gardiens d'accès à l'information. D'ailleurs, on a un chiffre qui résume très bien la situation, 70% des Européens s'informent désormais via les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'on ne passe plus forcément par un journal, une radio ou même un site d'actualité, mais par un fil algorithmique. Et ça change absolument tout. Aujourd'hui, ce sont Google, Meta, TikTok, X, anciennement Twitter, qui décident, grâce à leurs algorithmes, quels contenus vont émerger et quels contenus vont disparaître dans la masse. Ce ne sont pas des médias à part entière, mais ce sont eux qui contrôlent la visibilité des médias. Et c'est là que le problème majeur se pose en réalité. Les algorithmes ne privilégient pas la qualité journalistique, mais l'engagement. Ils amplifient ce qui fait réagir, ce qui choque, ce qui polarise et ce qui divertit. Donc, mécaniquement, les contenus les plus fiables, les plus nuancés, les enquêtes longues ou les analyses complexes sont souvent désavantagés. D'ailleurs, pour les petits médias indépendants, c'est encore plus dur. Car ils dépendent presque entièrement des plateformes pour atteindre leur public. Donc un simple changement d'algorithme peut diviser leur audience par deux du jour au lendemain. Un contenu signalé ou supprimé automatiquement peut les invisibiliser sans qu'ils aient les moyens de contester la décision. Et contrairement aux grands groupes, ces petits médias n'ont pas de service juridique, pas de contact direct dans les plateformes et pas de marge de manœuvre. Ils sont donc dans une situation d'asymétrie totale. La plateforme décide et eux subissent. Ce rôle de gatekeeper algorithmique est d'autant plus problématique qu'il se fait sans transparence. Les critères sont opaques, les décisions sont automatisées et il n'existe souvent aucun recours. C'est précisément pour répondre à ce déséquilibre que l'Union européenne a introduit des règles dans le European Media Freedom Act, notamment l'obligation pour les plateformes d'avertir les médias 24 heures avant un retrait de contenu. Mais dans les faits, tant que les plateformes dominent l'accès à l'information, elles exerceront un pouvoir énorme sur ce qui est visible et sur la survie économique des médias. Donc oui, le pluralisme existe, mais il est fragile, et il doit constamment résister à des formes de domination économique et algorithmique. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir parce qu'une diversité apparente peut difficilement coexister avec une dépendance structurelle très forte.
Alors même en relevant la typologie variée de médias, entre médias publics, plateformes numériques ou encore micromédias, on est toujours face au même constat. Le pluralisme et l'indépendance médiatique sont de plus en plus menacés.
Et justement, Lucie, qu'a fait l'Union européenne sur ce sujet ? Quelles ont été les dispositions prises pour assurer la protection des médias ?
L'Union européenne est pleinement consciente de cette problématique médiatique et l'évalue régulièrement grâce à l'instrument de surveillance du pluralisme des médias, aussi appelé le Media Pluralism Monitor. Il évalue la protection fondamentale de la liberté des médias, la pluralité du marché, l'indépendance politique et l'inclusion sociale des médias. Tout ceci afin de respecter les objectifs principaux de l'Union européenne, parce que je rappelle que la liberté et le pluralisme des médias sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE et dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors aujourd'hui, cet instrument estime la concentration des médias d'information à un niveau, je cite, de risque très élevé et leur indépendance politique à un niveau de risque moyen. Son classement international permet également de dessiner un panorama des pays à haut risque dans lequel on va retrouver par exemple la Pologne, Malte, la Grèce ou encore la Bulgarie. Après, l'attention de la Commission européenne sur ce sujet n'est pas nouvelle. En 2018 déjà, était adoptée la directive sur les services de médias audiovisuels appelée la directive SMA. Elle fournissait déjà une réglementation plus ferme concernant la publicité et la transparence sur les sources financières des médias audiovisuels. C'est aussi grâce à la directive SMA que fut créé le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, qui est l'ancêtre du CUSM, qu'on va sûrement évoquer plus tard. Et en 2023, le Digital Services Act, ou DSA, a permis de responsabiliser de manière plus importante les grands acteurs du numérique dans leur contenu. Son autorité est maintenue dans les pays membres grâce aux coordinateurs des services numériques, comme l'ARCOM, que vous devez connaître en France, qui se charge de veiller à sa mise en œuvre nationale. Et je renvoie à nos auditeurs à l'épisode précédent sur la désinformation, dans lequel on traite longuement du DSA. La question maintenant est de savoir si c'est suffisant. J'aimerais revenir à toi, Mathéo, et à l'idée que tu as fait émerger tout à l'heure, l'idée de confusion. Est-ce qu'elle ne serait pas justement le signe d'un échec des législations qui ont été adoptées jusqu'à présent à l'échelle européenne ? Quelles sont les conséquences de cette potentielle insuffisance, notamment pour le consommateur de médias ?
Pour commencer, il faut bien avoir à l'esprit que, comme vous et moi, les institutions chargées de mettre en place le cadre législatif font face à des phénomènes qui évoluent rapidement et qui sont sans précédent, et notamment si l'on pense à l'affirmation de l'intelligence artificielle dans la sphère médiatique. Cela veut donc dire qu'on a affaire, d'un côté et de l'autre, à quelque chose de tout à fait nouveau qui conduit à s'adapter, voire dans le cas du cadre législatif actuel, à se réinventer partiellement. Et il est important d'avoir cela en tête pour bien comprendre de quoi l'on parle lorsque l'on traite de régulation des médias. Il s'agit d'un processus qui se pense sur la longue durée, alors dire qu'il s'agit d'un échec me paraît précipité. Laissons le temps aux législations de faire effet. Il est difficile, voire impossible, d'exiger des législations actuelles et à venir qu'elles anticipent ces phénomènes puisqu'en réalité, comme nous, elles ne peuvent que s'adapter. Ce qui est plus inquiétant cependant, c'est la généralisation d'une perte de confiance face aux médias, et c'est ce que nous révèlent, de manière assez flagrante, certaines statistiques. En 2019, l'Eurobaromètre sur les attitudes médiatiques dans l'Union européenne montrait qu'en moyenne, 37% des citoyens européens déclarent n'avoir qu'une confiance faible ou nulle à l'égard des médias, et 42% une confiance moyenne. Seul un Européen sur 5, c'est-à-dire 21%, affirme avoir une confiance élevée dans les médias. Plus récemment, selon le nouveau baromètre La Croix-Verrian-La Poste sur la confiance des Français dans les médias, 62% affirment qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Ce que je trouve très intéressant avec ces statistiques, c'est qu'elles permettent de voir l'ampleur du phénomène et surtout l'idée que ce phénomène se pérennise. Alors on peut se dire que de nouvelles législations visant à encadrer davantage les médias permettront d'inverser cette tendance. Eh bien en réalité, ce n'est pas si simple. Cette perte de confiance s'accompagne d'un autre phénomène, celui d'infophobie, développé notamment par le chercheur américain Benjamin Toff dans son livre « Avoiding the News, Reluctant Audiences for Journalism ». Ce qu'il démontre, c'est que l'infophobie conduit à consulter peu ou ne plus consulter du tout les informations. Dès lors, il ne s'agit plus seulement d'une tendance, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui peut être inversée, mais d'un comportement qui a tendance à s'ancrer. On est donc loin de la perte de confiance passagère. Autre élément intéressant dans son analyse, c'est qu'il ne considère pas cela comme étant nécessairement problématique. Ça me permet de relativiser un peu les choses. Ce n'est pas problématique lorsqu'il n'y a pas d'ignorance complète des informations véhiculées par les médias. La question est maintenant de savoir si l'on se dirige dans cette direction d'ignorance complète des médias et des informations qu'elles diffusent. Quelque chose dont je ne suis pas si sûr, car s'affirme en parallèle, on l'a vu notamment dans notre dernier épisode, l'infobésité, c'est-à-dire la surconsommation d'informations.
Alors on peut dire que cette crise de confiance face aux médias est un signal d'alarme. Le monde médiatique évolue vite, et peut-être trop vite justement. Les pouvoirs politiques doivent traiter cette évolution en trouvant de nouvelles solutions. Jade, est-ce que tu dirais que c'est le cas actuellement ? La législation se transforme-t-elle aussi ?
Oui, clairement. En fait, au niveau européen, la crise de confiance dans les médias a vraiment joué le rôle d'électrochoc. Depuis 2023, l'Union européenne s'est mise à accélérer très fortement sur la protection du pluralisme et de l'indépendance des médias. La grande nouveauté, c'est le European Media Freedom Act, l'EMFA, comme énoncé précédemment, qui est entré en vigueur en 2024. C'est un texte assez ambitieux qui vise à poser des règles communes pour tous les médias européens. Et dedans, on trouve quand même des mesures qu'on n'avait jamais vues jusqu'ici. Par exemple, l'interdiction pure et simple de surveiller les journalistes, que ce soit avec des perquisitions abusives, des logiciels espions ou d'autres formes de pression. Le texte impose aussi plus de transparence sur la propriété des médias et il encadre mieux les fusions pour éviter une concentration excessive. Et il y a même une mesure très concrète pour le numérique. Les grandes plateformes devront prévenir les médias avant de supprimer l'un de leurs contenus pour éviter les suspensions arbitraires, mais surtout pour laisser le temps aux médias de contester la décision. En parallèle, l'Europe a aussi renforcé ses outils de contrôle. Depuis février 2025, il y a un nouveau comité, le Comité européen pour les services de médias, qui réunit les régulateurs de chaque pays, un peu comme l'ARCOM en France. Il ne peut pas imposer des sanctions, mais il peut alerter, donner des avis sur des fusions problématiques. Et l'idée, c'est de créer une pression collective, une sorte de standard européen minimal en matière d'indépendance des médias. Et puis il y a d'autres textes qui avancent. Le Digital Service Act, comme on l'a évoqué dans le précédent épisode, sur les règles de concurrence, la directive audiovisuelle. Et surtout, la directive anti-slap, adoptée en 2024. C'est celle qui protège les journalistes contre les procédures Bayon et elle doit être appliquée dans les droits nationaux d'ici 2026. Donc pour répondre simplement, oui ça bouge, peut-être pas assez vite selon certains, mais au niveau européen, il y a clairement une prise de conscience et un mouvement de fond pour réagir à la perte de confiance envers les médias.
J'aimerais revenir sur un point que tu as soulevé dans ta réponse, Jade, la question du droit national, parce que c'est quelque chose qui est quand même crucial pour comprendre la difficulté qu'on a à retrouver une pluralité des médias.
La question qui se pose, Lucie, est de savoir si tous les pays européens font face aux mêmes difficultés. Dirais-tu que les pays européens ont le même rapport aux médias, et plus particulièrement, le même rapport dans ce que je nommerais un combat pour la pluralité ?
Il s'agit moins d'un rapport national à un combat pour la pluralité des médias que tout simplement de l'instrumentalisation politique de la presse nationale. Autrement dit, si vous voulez, parler de pluralisation des médias, c'est déjà une certaine vision politique de la presse, une presse qui doit être indépendante et offrir un large panel de représentation. Dans certains pays, et même encore dans l'UE, on n'en est pas là. Il suffit de lire le rapport 2024 de l'Union européenne sur l'état de droit qui affirme que le manque d'indépendance de la gouvernance des médias de service public dans plusieurs pays demeure préoccupant. Et en réalité, ça se comprend quand on regarde le type de politique nationale adoptée dans chaque pays, parce que la pluralisation des médias est intimement attachée à la volonté gouvernementale de contrôle de la société. On l'a déjà vu d'ailleurs dans l'histoire, les régimes nazis et fascistes utilisaient les ondes radiophoniques pour désinformer la population des pays adverses, et la BBC, qui luttait justement contre cette vague de désinformation, a été interdite pendant le régime de Vichy. C'est d'ailleurs de cet épisode que naît en 1950 l'Union européenne de radio-télévision réunissant les radiodiffuseurs de l'Europe occidentale d'abord, puis d'une majorité de l'Europe. Mais évidemment que toute la législation européenne sur ce sujet, qui a été développée ensuite et qui continue, on l'a vu, à s'adapter, n'a pas tout contrôle sur les législations nationales. Tout simplement parce que c'est l'un des principes fondateurs de l'UE, chaque État membre reste État souverain. Autrement dit, l'autorité européenne est limitée au sein même de ces États par leur propre autorité nationale. Et ces limites peuvent coûter aux objectifs européens pour une presse plurielle, une presse variée. En 2023, selon l'Union européenne de radio-télévision, les principaux services de diffusion de la radio et de la télévision publique sont fournis par une seule entité dans 80% des pays de la zone couverte. Et cette tendance est conforme à celle du marché et de la consommation qui indique une convergence des médias, des formats de médias et des usages. Je vais aller m'appuyer plutôt sur le rapport 2025 de Reporters sans frontières sur les médias publics pour dire qu'on peut trouver deux principales raisons à cette convergence. Premièrement, les ressources financières dont on a déjà parlé, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et deuxièmement, la nomination des dirigeants des médias publics. Alors le financement des médias, on l'a déjà dit, joue énormément dans leur constitution, que ce soit par des redevances, des taxes, une part réservée du budget national. La diffusion des ondes nationales est livrée au gré des financements publics, et ça, c'est une question clairement nationale et non européenne. Après, ça n'empêche pas d'avoir une presse indépendante. En Suisse, en 2018, 70% des électeurs se sont opposés à une privatisation massive des médias et ont préféré continuer à payer la taxe du radiodiffuseur national de service public, qu'est la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Autre exemple, en Tchéquie, télévision et radiophonie nationales sont financées par une redevance et non par le budget gouvernemental, ce qui assure leur indépendance. D'un autre côté, dès lors que la nomination des dirigeants d'un média de service public, qu'il s'agisse du directeur général ou des membres du conseil d'administration, est effectuée par un ou plusieurs organes politiques, gouvernement, président, parlement, les décisions prises sont d'emblée politisées. Illustration en Grèce, où le porte-parole du gouvernement est aussi chargé de superviser les médias de service public, alors même que l'autorité de régulation de la radiodiffusion publique, le Conseil national de radio-télévision, qui est accusé de lenteur et d'inefficacité, n'a été remanié de manière significative ni par le gouvernement actuel, ni par le précédent. En Bulgarie, c'est la filiation politique qu'affichent les membres du Conseil des médias électroniques qui affaiblit nettement l'indépendance éditoriale. En Hongrie, l'absence d'indépendance à l'égard du pouvoir est quant à elle renforcée par des distinctions honorifiques de l'État qui sont remises régulièrement aux dirigeants ou aux rédacteurs en chef des chaînes de la MTVA, qui est le groupe de radiodiffusion publique du pays. Malgré ce tableau plutôt noir, je tiens à soulever d'importants progrès aujourd'hui dans plusieurs pays européens, comme en Bulgarie par exemple, où une révision de la législation a eu pour ambition de définir plus précisément la mission des services publics, et le financement de cette dernière est en cours d'examen. Autre exemple en Roumanie, où on débat d'une réforme de la législation relative aux organismes de radiodiffusion en vue d'une gestion plus indépendante et professionnelle de ces derniers. Alors jusqu'ici, on a vu que les médias sont traversés par plusieurs tensions. Pluralisme comme valeur fondamentale de la presse d'un côté, réalité économique de l'autre, médias comme enjeu européen marqué par d'importantes disparités internationales. Matteo, est-ce que ça implique de repenser la place qu'occupent les médias ? Ne serions-nous pas dans un moment fondamental, finalement, de reconceptualisation de ce qu'est le journalisme ou encore l'information ?
Alors, en effet, comme tu viens de le dire, les médias connaissent actuellement de grandes mutations entre d'un côté la reconfiguration du journalisme et de l'information telle que nous les connaissons, une reconfiguration par ailleurs porteuse de nouvelles possibilités, et de l'autre, les nombreuses dérives qui en résultent. Fake news, infobésité, la méfiance croissante envers les médias, et d'autres dérives encore. Pour répondre à ta question, je dirais que cela implique tout d'abord de repenser, en effet, le statut du journalisme dans notre société. Dans ce cadre, j'aimerais vous faire part du titre d'un article des Échos publié en 2020, que je trouve très intéressant, de par sa formulation provocatrice, mais aussi très révélatrice. Ce dernier s'intitulait « Sommes-nous tous devenus journalistes ?» Tout d'abord, ce qui m'a frappé, c'est le vocabulaire employé. On y retrouve les termes d'éclatement de la sphère informationnelle, de redistribution inédite des rôles, de crise, ou encore l'idée que l'information se transforme, se transmute. Ce que l'article démontre en réalité, c'est que l'information n'est plus l'affaire des seuls professionnels, mais que le citoyen, traditionnellement récepteur, peut devenir émetteur de sa propre actualité. Et il faut bien voir que les nouvelles technologies n'y sont pas pour rien dans cette reconfiguration des rôles. En effet, tout le monde possède à peu près les mêmes outils basiques pour décrypter l'actualité. Et c'est en ce sens que l'article parle de l'ère de l'auto-journalisme. L'émergence de blogs, par exemple, reflète exactement cela. En réalité, il s'agit d'une double transformation. Structurelle, c'est-à-dire au niveau du système que constitue le journalisme, mais également au niveau de l'information en elle-même. L'article évoque, à juste titre, la création du média brut lancé par Guillaume Lacroix en 2016, qui a justement reconceptualisé l'information pour qu'elle soit plus spontanée, sans cadrage, donc moins formelle. L'idée derrière tout cela, c'était d'instaurer un nouveau rapport entre le producteur et le consommateur de l'information, que l'information soit brute, d'où le nom du média par ailleurs. Cependant, je reviens quand même sur ce titre de l'article publié dans les Échos. Il est certes accrocheur, mais un peu abusif, et l'article lui-même finit par infirmer cette idée. Il ne s'agit donc pas de dire que tout le monde peut être journaliste, et j'insiste ici sur la notion de capacité, de pouvoir, car ce n'est pas le cas, le journalisme requiert évidemment des compétences et des exigences particulières. Par contre, cela signifie plutôt que le journalisme se fait désormais plus participatif. Philippe Merland, dans son livre intitulé « Tous journalistes, remédier à la fracture entre médias et citoyens », fait le constat de l'affirmation d'une information citoyenne. Il prend notamment l'exemple du conseil régional en Champagne-Ardenne qui a décidé de changer ses politiques destinées à la jeunesse. Le projet a alors consisté en la création d'un journal en mobilisant 15 jeunes. On voit bien ici qu'il y a un double enjeu quand on parle des médias donc. Ici, en mettant ces jeunes dans la peau, je cite, de reporters d'un jour, et les aider à se construire en tant que citoyens, en leur permettant notamment d'exercer leur esprit critique et d'analyse par le biais de la recherche et ensuite du traitement des informations. Les médias, donc, jouent un rôle éminemment politique, d'où leur importance.
Merci Matteo pour ta réponse. Peut-être une dernière question pour toi, Honorine, dans cette perspective toujours de comprendre la place qu'occupent les médias dans nos sociétés. Est-ce qu'il y a un lien entre la crise de confiance chez les consommateurs de médias et la crise de la démocratie que nous vivons actuellement dans toute l'Europe ? Je pense notamment au phénomène d'abstention sans précédent qu'a connu la France lors des élections sur les dernières décennies. Il s'agit d'une question essentielle, notamment parce que, on l'a vu à travers les législations, les médias constituent un enjeu politique qu'on ne peut pas nier.
Oui, tout à fait, tu fais bien de le mentionner car un lien existe bel et bien et il est aujourd'hui bien documenté dans la recherche. Alors évidemment, l'abstention n'a pas qu'une seule cause, mais l'effritement de la confiance envers les médias joue un rôle vraiment important dans ce que les sciences sociales appellent la désaffiliation démocratique. Quand une partie de la population a le sentiment que l'information est biaisée, opaque ou qu'elle est contrôlée par des intérêts économiques ou politiques qui lui échappent, ça crée un décrochage. Donc on parle de citoyens qui n'arrivent plus à identifier la frontière entre information fiable, rumeur ou propagande. Et ce brouillage nourrit un sentiment de distance, voire de méfiance, vis-à-vis des institutions politiques. Cette distance se traduit d'ailleurs très concrètement dans les urnes. Beaucoup se disent « je ne comprends plus qui dit quoi, ni pourquoi, donc je préfère ne pas voter ». Et on voit aussi une montée d'un autre phénomène, le sentiment que les médias ne parlent plus de nous. Cela touche particulièrement les jeunes, les classes populaires et les habitants des zones rurales ou périphériques. Des groupes dans lesquels l'abstention est aujourd'hui la plus forte. Quand on ne se sent ni représenté dans l'information, ni interpellé par les enjeux politiques, l'abstention devient presque logique. C'est un signal de déconnexion. Mais il y a aussi un mécanisme plus subtil et peut-être encore plus important, c'est la fragmentation du paysage médiatique, entraînant une fragmentation des perceptions du monde. En fait, chacun reçoit son propre flux d'informations façonné par les plateformes et les algorithmes. Les préférences individuelles, et on finit par ne plus partager les mêmes faits, les mêmes récits ni les mêmes priorités. Or, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut un espace public commun, donc un minimum de réalité partagée. Sinon, participer au débat collectif devient extrêmement difficile. C'est la presse qui, historiquement, jouait ce rôle de médiation. Elle connectait les citoyens entre eux, expliquait l'action publique, et elle contextualisait les décisions européennes. Et ainsi offrait une vision d'ensemble. Mais aujourd'hui, cette médiation se fragilise. Et pourquoi cela ? Parce que l'économie de l'attention pousse les médias vers des contenus plus rapides, plus émotionnels et plus polarisants. Parce que les rédactions manquent de moyens pour mener des enquêtes longues ou pour couvrir l'Europe de manière accessible. Parce que les petits médias disparaissent et que les locaux se réduisent, ce qui coupe le lien entre information et territoire. Et tout cela contribue à un phénomène qu'on observe dans plusieurs pays. D'abord un retrait citoyen, une impression que la politique ne nous concerne pas, que la démocratie n'est plus à notre portée, l'abstention devient donc un symptôme visible d'un malaise plus profond, celui d'un espace public fragmenté où l'information ne parvient plus à créer du lien, ni à donner l'impression que la participation politique a encore un sens. Ce n'est pas uniquement un geste de protestation. Quand on vote moins, cela peut être parce qu'on se sent moins en prise avec le débat public, mais aussi moins représenté, moins informé de manière fiable et compréhensible. Donc derrière ce geste, il y a un problème structurel, celui d'un espace public où l'information ne joue plus son rôle de ciment social. Quand chacun vit dans son propre fil d'actualité et sa propre bulle, avec ses propres sources, parfois fiables et parfois non, le lien collectif se distend. Il n'y a plus vraiment de récit commun, plus de vision partagée et plus de sensation d'appartenir à un même ensemble politique. Or, la participation démocratique repose précisément sur l'idée inverse. On vote parce qu'on se sent concerné par un destin commun. Et quand l'information n'arrive plus à créer ce lien parce qu'elle est trop dispersée et trop polarisée, la participation politique perd sa signification. C'est donc pour ça que la montée de l'abstention doit être lue comme une alerte démocratique. Non pas simplement comme un rejet des institutions en tant que telles, mais c'est vraiment le signe que notre espace public ne réussit plus à donner du sens, du contexte et de la lisibilité aux choix politiques. Donc oui, la crise médiatique et la crise démocratique ne sont pas la même chose, mais on peut vraiment dire qu'elles avancent clairement main dans la main. Et si on veut s'attaquer à la crise de la participation en Europe, on ne peut pas faire l'impasse sur la question du pluralisme, de la transparence et surtout de la qualité de l'information.
Merci Honorine et merci aux autres chroniqueurs qui ont été avec moi aujourd'hui dans le studio, Mathéo et Jade, pour vos réponses pertinentes. Les mots de la fin, chers auditeurs, seront ceux du rapport sur l'état de droit, commandé en 2022 par la Commission européenne, qui précise que des médias indépendants et libres sont les gardiens de la démocratie. Les médias sont au fondement de nos démocraties en offrant un lieu d'expression et d'échange. Défendre l'indépendance et la liberté des médias, c'est également défendre la sauvegarde d'une démocratie gouvernée par tous, par le démos, le peuple, et non selon les sachants seulement. Si ce sujet vous intéresse, rendez-vous au prochain épisode qui portera sur la liberté de la presse et la censure des médias européens. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Merci.